à Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en direct de la capitale américaine, mercredi 12 décembre 2018, Le Monde Aujourd'hui, édition de 17h30, temps universel. Au sommaire ce soir, présidentiel en RDC, au moins une personne a été tuée à Kalemi, en marge de la campagne de Martin Fayoulou. En Guinée, Sidya Touré a démissionné de son poste de haut représentant du président Alpha Condé. Patrice Edouard Gaïssona, ex-chef de milice anti-Balaka en Centrafrique, a été arrêté en France sur mandat de la CPI. Ici aux États-Unis, Michael Cohen, ancien avocat personnel du président Trump, a écopé de 3 ans de prison. Et puis, la fusillade hier en France a fait au moins 2 morts à Strasbourg. Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, la campagne pour la présidentielle du 23 décembre se poursuit. Après Lubumbashi, hier, le candidat de la coalition Lamuku a voulu se rendre à Kalemi. Hier, comme aujourd'hui, il y a eu des incidents violents qui ont fait au moins 2 morts. Patrice Edouard Gaïssona, ex-chef de milice centrafricaine, a été arrêté en France pour crimes commis dans l'ouest de la République centrafricaine entre septembre 2013 et décembre 2014. C'est ce qu'annonce la Cour pénale internationale. Monsieur Gaïssona a été élu en février au comité exécutif de la Confédération africaine de football. Selon son porte-parole, il est également président de la Fédération centrafricaine de football. Nous reviendrons sur cette arrestation dans notre partie magazine. Le procureur général du Rwanda annonce qu'il va faire appel de l'acquittement le 6 décembre de l'opposante Diane Rwigara et de sa mère pour incitation à l'insurrection. Nous pensons que les preuves que nous avons présentées devant la haute cour n'ont pas été complètement prises en compte, a-t-il justifié. Il faut dire que début décembre, Diane Rwigara avait été acquittée d'incitation à l'insurrection et falsification de documents, des charges qui lui ont valu d'être emprisonnée pendant plus d'un an. 5 Rwandais accusés d'avoir pris part au génocide de 94 ont été renvoyés devant la cour d'assises de Bruxelles pour crimes de génocide et crimes de guerre. C'est la première fois qu'une cour d'assises belge aura à connaître des faits qualifiés de crimes de génocide, précise le parquet. 4 procès relatifs au génocide rwandais s'étaient déjà tenus en Belgique entre 2001 et 2009, mais ils ne concernaient que des faits de crimes de guerre. Dans le sud-ouest du Burkina Faso, le commissariat de police de Burumburum a été attaqué hier soir par des hommes armés. Il n'y a pas de victimes. 2 groupes armés ont lancé un assaut simultané qui a duré au moins 1 heure avant d'être repoussé par des policiers. En Guinée, Sidya Touré a démissionné de son poste de haut représentant du président Alpha Condé, président de l'Union des Forces Républicaines, ancien Premier ministre. Il jette l'éponge après 3 ans de collaboration avec le chef de l'exécutif guinéen. Les précisions de Zakaria Camara, notre correspondant en Guinée.
C'est l'actualité des dernières 24 heures en Guinée. La démission de Sidya Touré fait couler encre et salive. Surprise pour certains Guinéens, une opportunité surtout pour l'opposition. Ça prouve qu'il n'est pas facile de travailler avec le président Condé, a fait remarquer ce matin un responsable de l'UFDG, principal parti d'opposition. Désormais, toute action posée par l'UFR pourrait être considérée comme celle de l'opposition, précise-t-il. L'opposition qui n'a pas cessé de critiquer le positionnement politique de Touré depuis sa nomination en 2016, Sidya Touré ne semble pas être en phase avec la gouvernance Condé. Les cours sont perturbés depuis plusieurs semaines. L'opposition est dans la rue pour une série de manifestations suffisantes pour le désormais proche du président Condé de jeter l'éponge. C'est le 2e départ en moins d'un mois après celui du ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Zakaria Camara pour VO Afrique, Conakry.
Dans le sud-est du Nigeria, des hommes armés ont enlevé les passagers d'un bus près de la ville pétrolière de Port Harcourt où les kidnappings contre rançon sont fréquents. C'est ce qu'indiquent la police et des témoins. La justice allemande a ouvert une enquête pour homicide par négligence à l'encontre de 3 employés d'Airbus soupçonnés d'avoir mal réglé des commandes de vol d'un hélicoptère de l'armée allemande qui s'était écrasé en 2017, au Mali. 2 casques bleus faisant partie du contingent allemand de la mission des Nations Unies au Mali étaient morts en juillet 2017 dans ce crash. Le Mozambique a nommé 3 hauts responsables de la RENAMO, le plus grand parti d'opposition, à des postes clés de commandement de l'armée. Les généraux du renouveau démocratique du Mozambique ont ainsi été nommés aux postes clés de directeur des opérations, directeur de l'information militaire et directeur des communications. Mesure prise dans le cadre d'efforts de consolidation de la paix avec cet ancien mouvement rebelle. Égypte, l'armée annonce avoir tué 27 djihadistes présumés depuis début novembre, ce qui porte à environ 500 le nombre de combattants abattus en 10 mois dans le cadre d'une opération menée dans le Sinaï contre le groupe État islamique. 403 suspects ont été arrêtés, 61 véhicules tout-terrain détruits et 342 caches démolies. Une vaste campagne baptisée Sinaï 2018 a été lancée le 9 février après une attaque qui avait fait plus de 300 morts dans une mosquée dans le nord de la péninsule.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, Michael Cohen, l'ex-avocat personnel de Donald Trump, a été condamné à 3 ans de prison dans son procès pour fraude fiscale, fraude bancaire et violation des lois sur le financement des campagnes électorales. Abdourahman Dia.
Avant que le juge ne prononce la sentence, Michael Cohen, 52 ans, a promis de continuer à coopérer avec les enquêteurs fédéraux, quel que soit le verdict. Il a aussi affirmé qu'il assumait toutes les charges pour lesquelles il a été reconnu coupable. Michael Cohen a passé une dizaine d'années au sein de la compagnie de Donald Trump. Il a avoué en août dernier avoir caché au fisc quelque 4 millions de dollars de revenus de ses sociétés de taxi et avoir payé 280 000 dollars à 2 femmes qui menaçaient d'évoquer des liaisons supposées avec Donald Trump en pleine campagne présidentielle. En novembre, Michael Cohen a aussi avoué avoir minimisé devant le Congrès l'ampleur des contacts de l'équipe de campagne de M. Trump avec Moscou. Tous ces aveux ont eu lieu après une perquisition dans ses bureaux et à son domicile new-yorkais en avril. Il avait dit qu'il serait prêt à prendre une balle pour défendre son patron, Donald Trump. Il s'est donc retourné contre lui. Dans une interview avec l'agence Reuters hier, Donald Trump a qualifié de mensonge les déclarations de son ancien avocat personnel.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo exhorte le Conseil de sécurité de l'ONU à limiter le développement de missiles balistiques iraniens qui menacent selon lui le Moyen-Orient et au-delà. Il déclare que les activités du régime iranien dans le domaine des missiles balistiques se sont développées depuis l'accord nucléaire conclu en 2015, a souligné Mike Pompeo lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la non-prolifération. Dans l'est de la Syrie, 7 fosses communes avec des centaines de dépouilles non identifiées ont été découvertes près de la ville de Boukamal, ex-fief du groupe État islamique. D'après l'agence syrienne officielle Sana, les équipes de la défense civile et le Croissant-Rouge syrien ont retrouvé 101 corps, dont la plupart auraient été soumis à la torture et à des mauvais traitements avant l'exécution. Un ancien détenu radicalisé a ouvert le feu au marché de Noël de Strasbourg en France, fréquenté chaque année par 2 millions de visiteurs. Bilan, 2 morts, une personne en état de mort cérébrale et 12 blessés, dont plusieurs en urgence absolue. Nani Talani.
Pas moins de 720 membres des forces de l'ordre sont à la recherche de l'assaillant, identifié sous le nom de Shérif C et âgé de 29 ans. Il ne peut être exclu qu'il soit passé en Allemagne, a indiqué le secrétaire d'État français à l'intérieur, Laurent Nunez, ajoutant qu'un bouclage des frontières a été assuré. Selon le chef du parquet antiterroriste Rémi Hetz, l'homme est très connu de la justice pour des faits de droit commun, principalement des vols et violences. Il a été condamné à 27 reprises en France, mais aussi en Allemagne et en Suisse, et incarcéré plusieurs fois. En prison, il s'est radicalisé et a eu une attitude prosélyte en 2015, ce qui lui a valu d'être inscrit sur le fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste, a précisé le procureur lors d'une conférence de presse à Strasbourg. Hier, il devait être interpellé par les gendarmes dans le cadre d'une enquête de droit commun, mais a échappé à cette arrestation.
COP24, les questions politiques importantes ne sont pas résolues. C'est alarmé aujourd'hui le secrétaire général de l'ONU. La lutte contre le changement climatique est une question de vie ou de mort, a insisté Antonio Guterres, en exhortant les délégués de quelques 200 pays réunis à Katowice, en Pologne, à dépasser leurs différends pour agir efficacement contre le réchauffement climatique. À 2 jours de la fin de la réunion, les négociations négociations bloquent sur des questions liées à la transparence, comme les États, comment les États rendent compte de leurs actions, leur financement, leurs résultats, ou le degré de flexibilité accordé aux pays les plus pauvres, selon des observateurs. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée par Nami Talani.
Deux sociétés égyptiennes, Arab Contractors et El Sewedi Electric, vont construire un puissant barrage hydroélectrique dans une réserve tanzanienne classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. D'une capacité de 2100 MW, la centrale doit être construite sur la rivière Rufiji dans la réserve de Selous dans le sud, réputée pour son riche et vaste écosystème. La Tanzanie compte sur cette installation pour son développement industriel et le développement de son économie. Les défenseurs de la nature estiment que le barrage est censé avoir un impact négatif sur l'environnement. En Mauritanie, le groupe français Total remporte des contrats pour deux nouveaux blocs d'exploration. Cette société et le ministère du pétrole, de l'énergie et des mines mauritaniens ont signé un accord attribuant à Total deux nouveaux contrats d'exploration et de production pour les blocs C15 et C31 situés au large de la Mauritanie, couvrant une superficie de 14 175 km². Pour terminer, l'an prochain, seules les compagnies aériennes africaines enregistreront des pertes. Des pertes qui s'élèveront à 300 millions de dollars contre 400 millions en 2018, selon l'Association internationale du transport aérien. Celle-ci prévoit en 2019 des bénéfices nets au niveau mondial en hausse de 9,91%, soutenus par la chute des prix du pétrole et la solidité de la croissance économique. Ses profits atteindront 35,5 milliards de dollars contre 32,3 milliards cette année.
Au pas de course, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Seydou Bombo Njoya est le nouveau président de la Fédération Camerounaise de football.
Oui Morgane, il a été élu à l'issue d'une assemblée générale de la FECAFOOT qui a eu lieu en Bankoumo, une banlieue de Yaoundé. Notre correspondant Emmanuel Jules Ntap est en direct de la capitale camerounaise. Bonsoir Jules. Jules, est-ce que vous m'entendez? Jules, bonsoir.
Oui.
Et donc, on va juste, avant de reprendre Jules, on va juste rappeler que M. Seydou Mbombo Njoya a été élu, bien sûr, président de la Fédération camerounaise de football. Il était notamment en concurrence avec six autres candidats, dont le très connu, l'ancien international Lion Indomptable, gardien de but hein, de la Tanière, Joseph Antoine Bell. Et on va rappeler aussi que M. Mbombo Njoya a bénéficié du soutien de l'international camerounais Samuel Eto'o, fils qui a ouvertement, hein, qui est ouvertement, on va dire, entré en conflit avec ses anciens internationaux que sont Mila. Et on a Jules. Bonsoir, Jules.
Bonsoir, Yacoubou.
Alors, Jules, dites-nous, est-ce une élection surprise, hein, et qui est ce Seydou Mbombo Njoya, le nouveau patron du foot camerounais?
Oui, on ne peut pas dire que ce soit une surprise. Et depuis très longtemps, on sait qu'au Cameroun, il y a une interférence entre le politique et le football. Le second pétrole du Cameroun, c'est le football. Et donc, à ce niveau-là, ce n'est pas n'importe qui doit le gérer. Alors là, quand vous voyez des élections, si on faisait un référendum, le référendum donnerait le champion des footballeurs nettement en tête. Et le champion des footballeurs, tout le monde le connaît, c'est Joseph Antoine Bell qui a œuvré pour le progrès des footballeurs africains en Europe, pour le progrès des footballeurs camerounais en général. Et dans toutes les situations, il a sacrifié pratiquement sa progression des joueurs pour le bien commun. Donc tout le monde sait que c'est le candidat de l'équité. Mais de l'autre côté, il y a le candidat de la raison. Je crois que c'est celui-là qui est passé. Quand je parle de raison, ça veut dire que il a un sous-bassement solide. C'est d'abord un chef, un prince coutumier en pays Bamoun. Et donc, à partir de ce critère-là, on peut savoir que c'est plutôt le politique qui joue et l'équilibre géopolitique à l'intérieur du Cameroun. Donc, on n'est pas encore sorti de l'ornière.
Merci bien.
On va voir ce qu'il va nous proposer.
Merci bien, Jules.
De même que le football camerounais reste.
Merci bien, Jules. On va juste rappeler, hein, toujours dans l'actualité sportive, le Maroc vient d'annoncer qu'il ne sera pas candidat à l'organisation de la CAN 2019. Merci. Affaire à suivre, donc.
Merci, Yacouba Ouidraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec, vous écoutez Le Monde aujourd'hui et sur VOA Afrique, place au dossier du jour. Élections en République démocratique du Congo à 11 jours de la présidentielle combinée avec les législatives nationales et provinciales. Le débat sur la machine à voter est toujours d'actualité. La Commission électorale nationale indépendante va utiliser cet outil informatique à la place des bulletins utilisés en 2006 et 2011 pour, selon elle, faciliter le vote du 23 décembre. Mais cette machine ne fait pas l'unanimité dans la classe politique congolaise. Une frange de l'opposition demande même à ses partisans d'exiger le bulletin papier à la place de la machine le jour du scrutin. Reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Aller aux élections le 23 décembre avec ou sans la machine à voter, la question divise même au sein de l'opposition congolaise. Après avoir longtemps exigé le retrait de cet outil du processus électoral, l'UDPS Tshisekedi a fini par lever l'option d'aller aux élections avec ou sans la machine à voter. Le parti de Félix Tshisekedi a été suivi plus tard par l'UNC de Vital Kamerhe. Mais à la coalition Lamuka, on continue d'exiger le retrait de la machine comme condition pour des élections apaisées et transparentes. La Commission électorale nationale indépendante, quant à elle, se montre catégorique. Sans la machine à voter, pas d'élection le 23 décembre 2018, n'a cessé de rappeler Corneille Nangaa. Jean-Baptiste Itipo, le chargé de communication de la centrale électorale, évoque ici les avantages de cette machine.
La machine à voter offre la fiabilité du vote. Chaque électeur verra le candidat pour lequel il vote. Il verra également imprimé sur son bulletin la photo de son candidat avec les éléments de son identité, mais aussi des éléments liés à son appartenance politique. Deuxième avantage, c'est la rapidité. Nous aurons organisé 3 scrutins combinés directs le même jour et donc la machine à voter vient réduire le temps que chaque électeur est appelé à passer dans les bureaux de vote. La machine à voter vient faciliter même le dépouillement des résultats dans la mesure où nous aurons un bulletin unique et facile donc à dépouiller pour les 3 scrutins.
Pour sa part, Jérôme Bonso, expert en matière électorale, propose à la CENI de rechercher jusqu'au bout un consensus entre parties prenantes autour de l'usage de la machine à voter.
La rencontre entre CENI et la classe politique congolaise, le pro et anti-machine à voter, doivent constituer la recherche d'un consensus. Et le contenu qu'on donne à ce consensus, c'est un contenu technique. Et par consensus technique, nous pensons que les uns et les autres ont tout intérêt à intégrer les 15 recommandations de la firme britannique sur la mise en œuvre de la machine à voter.
Les Kinois interrogés par VOA Afrique sont, comme la classe politique, partagés également sur l'opportunité de cette machine lors du vote.
J'entends souvent parler de la machine à voter, mais je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer des gens qui peuvent me donner cette chance de voir comment ça se passe. Ceux qui disent que nous irons aux élections sans la machine à voter, bon, je ne sais pas ce qu'ils pensent, hein, puisque c'est maintenant c'est la machine à voter. Donc, on pouvait les retirer du circuit depuis, mais comme nous sommes déjà là, c'est pratiquement impossible.
Cette machine-là, si on est en train de refuser ça, il y a quelque chose qui ne va pas.
On n'a pas le choix, comme il y a de la machine, on va avec la machine. Il y a la machine, c'est une évidence. Il faut y aller avec la machine.
Je n'ai jamais vu la machine à voter. Je ne sais pas comment utiliser ces machines-là.
Malgré une campagne de sensibilisation entamée depuis janvier 2018 et de nombreuses concertations avec la classe politique, la Commission électorale nationale indépendante n'a pas réussi à dégager un consensus autour de cette machine à moins de 2 semaines des élections. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Bonsoir à tous, c'est Kia Badou avec vous et je vous donne rendez-vous à 18h en temps universel dans votre émission interactive À votre avis. Il n'est pas rare de voir des personnes atteintes de maladies, virus et autres pathologies comme le virus Ebola, le sida, le cancer. Ces personnes parfois optent pour des traitements non scientifiques. Qu'en pensez-vous? Connaissez-vous des croyances qui empêchent des patients de se soigner par voie classique? Laissez vos numéros de téléphone sur notre page Facebook Facebook VOA Afrique ou appeler en direct au +1 202 205 26 33. On se donne donc rendez-vous à 18h05 en temps universel sur VOA Afrique. Patrice Edouard Gayissona, un ex-chef de milice anti-Balaka en Centrafrique et figure de proue des autorités du football africain, a été arrêté par les autorités françaises conformément à un mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale. Idriss Fall a recueilli la réaction de Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
Nous avons appris ce matin que Edouard Gayissona a été arrêté à Paris pour exécuter un mandat d'arrêt international décerné par la Cour pénale internationale. Nous avons noté que dans le mois, puisque c'est le 17 dernier, que Alfred Hécatombe, un caporal chef qui avait appartenu au mouvement anti-Balaka, a été arrêté et transféré à la CPI. Gayissona, qui avait été à un moment donné coordonnateur du mouvement anti-Balaka, a été arrêté à Paris et serait en voie d'être transféré à la Cour pénale internationale. Ce conflit, il y avait deux camps. Un camp syrique qui avait semé la terreur et qui a donné naissance aux anti-Balaka, alors que le feu brûle encore sur les agissements de Syrique à Lindao, à Ipi, à Vatangafo, à Karabandoroyère, à Bambari, pratiquement, ce sont les autres qui se sont tués, qui sont déférés à la Cour pénale internationale. Donc ça, c'est notre grand étonnement, alors que la Cour pénale internationale avait des moyens, avec les forces internationales qui sont ici, pour que les hauts responsables de notre groupe soient aussi recherchés et ramenés à la Cour pénale internationale pour garantir à cette haute juridiction toute sa neutralité.
Sans citer personne, vous pensez que les FACA ou bien l'ONU va tenter d'arrêter certains leaders de l'ex-Séléka?
La justice, si elle travaille en disant « puisque j'ai fait de l'autre côté, il faut que je fasse comme ça pour contenter les gens », ce n'est pas une bonne justice. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des crimes qui sont visibles, qui sont connus, mais qu'on a semblé fermer les yeux dessus. Je donne l'exemple. Vous avez deux volcans, un autre volcan qui s'est éteint et un autre volcan qui est en éruption. Et vous évacuez les gens autour du volcan éteint parce qu'ils seront en danger, alors que le volcan qui est en éruption présente de plus graves dangers. Ces agissements sélectifs risquent à ne pas en douter de créer d'autres plus grave dans le pays.
Ça intervient alors qu'on vient de mettre en place à Bangui un tribunal spécial qui devrait s'occuper de ces questions-là, non?
Nous avons une cour pénale spéciale dont l'audience solennelle a été lancée, dont les stratégies de poursuite sont déjà adoptées. Les personnes qui repiègent à rechercher par cette juridiction, cette cour pénale spéciale, ce sont les Alfred Hécatombe, ce sont les nationales, ce sont les autres. Mais on vient, on les recherche à cette cour pénale spéciale. Quel est son intérêt à ce jour? Mais pourquoi est-ce qu'on coupe l'herbe sous la cour pénale spéciale? La feuille de route de l'Union africaine, qui est la seule voie de sortie de crise, est-ce qu'on ne semble pas mettre en œuvre des mécanismes qui sont de nature à ce que la République centrafricaine ne sorte jamais de l'état de guerre qu'on connaît jusqu'aujourd'hui?
Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
Raissa Girondin avec vous. Dans Washington Forum, coup de projecteur sur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Dénoncer le viol comme arme de guerre, tel est le combat qu'il a décidé de mener. En République démocratique du Congo, ce gynécologue a consacré sa carrière aux femmes et filles victimes de violences sexuelles. Comment est-il devenu une référence de la lutte contre la barbarie? Comment punir les auteurs de ces actes? À la star du docteur Mukwege, comment accompagner les victimes de sa communauté sur le chemin de la guérison physique et psychologique? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Amnesty International demande aux autorités maliennes de modifier le projet de loi d'entente nationale qui sera examiné jeudi par l'Assemblée nationale. L'article 4 de ce projet précise que les auteurs de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, viols et autres crimes ne pourront pas se soustraire à la justice. Cette disposition n'empêche pas l'octroi d'amnestie pour d'autres crimes comme la torture, les disparitions forcées, homicides et autres violences selon Amnesty. Nathalie Barge, adjointe à Dakar, Sadi Boumarong, responsable média Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et centrale.
Le projet en soi ne respecte pas les obligations du Mali au terme du droit international, notamment aussi du statut de Rome, de la Convention des Nations Unies contre la torture. Pour Amnesty International, l'article 4 du projet précise que les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, de viols et d'autres crimes imprescriptibles ne pourront pas se soustraire à la justice. Et cette disposition n'empêche cependant pas l'octroi d'amnistie pour d'autres crimes de droit international, des crimes comme la torture et la disparition forcée. Il est également possible que des auteurs d'autres graves infractions comme le meurtre, la torture et même des violences contre des personnes ou des enlèvements puissent bénéficier d'une immunité de poursuite.
Vous l'avez précisé notamment dans l'article 4 qui parle aussi des crimes imprescriptibles. Est-ce que cela n'inclut pas les crimes dont vous avez parlé qui pourraient du reste être très traité en tant que crime, notamment de droit commun, en dehors de la loi d'entente nationale?
Les dispositions de l'article 4 n'empêchent pas l'octroi d'amnistie pour d'autres crimes, notamment de droit international. Cela pose problème, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'autres textes sur le plan international. La déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qui dit que les auteurs d'actes de disparition forcée ne peuvent bénéficier d'aucune loi d'amnistie spéciale.
D'autres pays en général adoptent des amnisties sans prendre en compte ces crimes dont vous avez parlé. Est-ce que cette loi ne serait pas au contraire le fait de garantir que l'amnistie ne veut pas dire impunité ?
Non, en réalité, pour nous, au lieu de prévenir de futures violations en traduisant en justice les auteurs de violations du droit international, ce projet risque de renforcer la culture de l'impunité. Et c'est la raison pour laquelle les autorités, nous les appelons encore une fois à modifier le projet et faire en sorte que des enquêtes exhaustives puissent être menées sur les violations des droits humains attribuées aux groupes armés et aux forces maliennes de sécurité, parce que c'est des deux côtés.
Sadi Boumaron, responsable média Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et Centrale.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Nigeria, la toxicomanie, la dépendance aux opioïdes sont à la hausse, notamment au sein de la jeunesse. Les artistes du pays utilisent cependant les réseaux sociaux et leur art pour sensibiliser le public face à ces dangers. Comment s'y prennent-ils? La réponse dans ce récit d'Irénée Armanumbo.
David Jones semble être sous l'effet d'un excitant. Le célèbre artiste nigérian joue les toxicomanes dans cette vidéo qu'il enregistre avec son téléphone et qu'il diffusera plus tard en ligne à ses admirateurs. Son objectif est de les sensibiliser sur les nombreuses conséquences liées à la consommation des stupéfiants. L'utilisation endémique d'opioïdes comme la codéine et le tramadol est en augmentation en Afrique de l'Ouest. John lui-même a perdu son ami proche suite à une overdose d'opioïdes. Il sort alors Oniora, qui signifie fou en Igbo, dans le cadre d'une campagne de sensibilisation contre la drogue à laquelle participent plusieurs autres artistes de renom. David Jones.
I believe whatever you need to excel in life,
tout ce dont vous avez besoin pour exceller dans la vie est en vous. Certes, ces choses peuvent améliorer les performances et tout ça, mais elles détruisent et rapidement. Elle gâche votre façon naturelle de faire avancer les choses en tant qu'être humain.
Pendant des années, l'abus d'opioïdes, en particulier de sirop contre la toux contenant de la codéine, était répandu dans tout le Nigeria. Les bouteilles s'obtiennent facilement dans les pharmacies et auprès des vendeurs de médicaments. Mais la question est devenue publique et préoccupante après que la BBC a ouvert une enquête sur l'épidémie de sirop de toux à la codéine au Nigeria en avril, suivie d'une enquête sur BuzzFeed. En novembre, les services des douanes nigériens ont saisi des conteneurs de 40 pieds avec du tramadol dissimulé dans plus de la moitié de son contenu. Ahmed Ali, contrôleur général de la douane nigériane.
Nous sommes en alerte, raison pour laquelle nous avons retenu ce conteneur. Et d'après son contenu, il s'agit de tramadol. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Les étiquettes sont là et j'expliquais également la manière systémique de l'emballage.
C'est la fin de cette édition. Georges Léonard Sagnot à la mise en onde. Présentation Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Voix Afrique, les infos.